Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi d'embarquer avec vous jusqu'à 14h, une heure de vadrouille au cœur de la vie des autres sur la planète. Et on ouvre d'abord une belle grande page sur les filles et les femmes qui jouent au foot à travers le monde. Aux États-Unis, on dit soccer et les tribunes des stades sont pleines. On ira aussi en Allemagne où les joueuses de l'équipe nationale ont fait parler d'elles avec une vidéo très rigolote avant le début de la Coupe du Monde. Au Kenya, on sera dans le bidonville de Kibera où le ballon rond permet aux filles d'accéder à l'éducation. Et après ces reportages, nous accueillerons Mélina Boëti, ancienne joueuse et co-réalisatrice d'un film sur le foot féminin dans le monde, Little Miss Soccer. Essayez de le voir, c'est réjouissant. On vous emmènera aussi en Finlande, sur laquelle, une fois de plus, on essaye de prendre exemple. Cette fois, c'est leur politique de la toute petite enfance qui inspire nos gouvernants. On va voir comment là-bas les parents sont accompagnés pas à pas, avant même la naissance du bébé et jusqu'à ses 2 ans. On ira aussi en Afghanistan pour essayer de toucher du doigt ce que vivent les civils dans ce pays aux prises avec les talibans, les divers groupes djihadistes et où même l'armée régulière et l'appui américain représentent souvent un danger dans les villages. Nicolas Caro nous parlera du livre d'un Britannique qui raconte le D-Day et le débarquement par la petite histoire. Quant à Joseph Chovanec, il a rencontré en Belgique une collectionneuse improbable de boîtes et c'est un voyage en soi. Les carnets sont ouverts et oui, on va parler foot. C'est parti pour un mois. La Coupe du monde de football féminin a démarré vendredi. Alors en France, la Fédération de football compte un peu moins de 140 000 licenciés. D'accord, c'est peu au regard des quelques 2 millions de pratiquants hommes. Mais voyez plutôt la progression. En 4 ans, entre 2013 et 2017, le nombre de joueuses officiellement recensées a progressé de 83%. Et puis le foot féminin est jeune, il n'est apparu en France que dans les années 70. Pas toujours facile de se faire connaître et d'intéresser les médias et les supporters. C'est aussi le cas chez nos voisines allemandes. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie.
On fait une première étape chez vous, où la Mannschaft des femmes a réussi à faire beaucoup parler d'elle ces dernières semaines. Avant même le début de la compétition, les footballeuses allemandes ont réussi à attirer l'attention du public grâce à une petite vidéo mise en ligne et qui a fait un buzz incroyable.
Oui, 90 secondes, comme les 90 minutes d'un match de foot, alors à pleine allure, tournée façon clip de rap ou jeu vidéo avec des effets de zapping, des images qui sautent, des incrustations sur l'écran. 90 secondes qui ont été vues un demi-million de fois sur Internet. Et puis, depuis la mi-mai, le spot, qui est en fait une publicité pour l'un de leurs sponsors, est aussi diffusé sur une douzaine de chaînes de télévision et notamment sur la première chaîne publique, ARD, juste avant le journal télé du soir. Et ça secoue, écoutez le début.
Tu sais au moins comment je m'appelle.
Et moi ?
Ouais, c'est ça.
Nous jouons pour une nation qui ne connaît pas nos noms. Mais nous avons été 3 fois championne d'Europe, ça tu le sais, hein ? Non ? Ah, c'est vrai, en vérité, c'était 8 fois. Pour notre premier titre, on a reçu un service à café.
Voilà, du rythme et beaucoup d'ironie. Le coup du service à café, on y croit à peine quand même.
Hein. Pourtant, c'est bien vrai. Ah. Hein. C'était un cadeau d'un grand groupe de vaisselle allemande d'une valeur de 1000 euros. Ouais. Alors aujourd'hui, elles peuvent s'estimer bien loties puisque si elles décrochent le titre en France dans un mois, les footballeuses allemandes recevront chacune 65 000 euros. Mmh. C'est tout de même encore 5 fois moins que leurs collègues de l'équipe masculine.
Et on ne connaît toujours pas leur nom.
Et non, alors quand même, il y a Alexandra Popp, ça ne vous dit rien évidemment. Il y a peut-être Jennifer Mazoran, alors elle joue à Lyon, elle vient de gagner la Ligue des Champions. Mais rassurez-vous, la presse allemande ne fait pas mieux. La semaine dernière, un magazine sportif a confondu les gardiennes en légendant une photo. Et d'ailleurs, c'est vraiment le message de ce spot vidéo. Les footballeuses ne veulent pas être des stars, elles veulent juste qu'on les respecte pour ce qu'elles sont, de grandes sportives très titrées.
C'est ok, tu n'as pas besoin de savoir reconnaître nos visages. Mais par contre, n'oublie pas ce que nous voulons, jouer.
Alors elles veulent jouer leur foot à elles, affronter des adversaires, mais aussi affronter les préjugés. Vous savez, le foot des filles, c'est trop lent, c'est pas assez technique, à peine au niveau du sport amateur, les filles devraient rester chez elles, elles devraient préférer mettre des talons. Et bien dans cette vidéo, les championnes olympiques en titre montrent qu'elles en ont sous leurs crampons, fières, pleines de réparties volcaniques et même un peu provoques.
Mais tu sais quoi ? Nous n'avons pas besoin de couilles. Nous avons de vraies queues de cheval.
Pardon ?
Elles y vont carrément, Hélène.
Ouais, alors en anglais, le passage est traduit de manière un petit peu plus subtile, mais c'est clair que c'est la petite phrase qu'on a retenue ici. Alors maintenant, il faut terminer de convaincre le public allemand avec des buts, bien évidemment. L'Allemagne n'a pas un groupe facile dans cette compétition avec la Chine, l'Espagne et l'Afrique du Sud.
Voilà, et au passage, un grand merci aux filles de la rédac qui ont fait les doublages, qui ont dû bien s'amuser. Merci Hélène, on se rappellera ce petit clip très bien fichu en les regardant jouer les filles de la Mannschaft.
À bientôt, tchuss.
On file maintenant dans le pays du foot féminin. On dit là-bas le soccer. Il s'agit des États-Unis où on retrouve notre correspondant Xavier Yvon à New York. Bonjour Xavier.
Bonjour Sophie, bonjour à tous. Très bel accent.
Merci beaucoup. Pour commencer, on part à l'entraînement avec vous. Vous êtes allé voir jouer des équipes de jeunes filles à New York et pas n'importe où. On écoute votre reportage.
Il n'y a pas beaucoup de terrains de foot dans le monde avec une vue pareille. Des pelouses synthétiques sur les quais de Brooklyn face au gratte-ciel de Manhattan. Derrière un but, la statue de la liberté. Derrière un autre, le pont de Brooklyn. On entend les hélicoptères et les sirènes de bateaux, mais rien ne pourrait déconcentrer la petite Naomi avec son maillot bleu ciel de Park Slope United sur les épaules. Elle ne s'arrête de taper dans la balle que si on lui parle de la Coupe du Monde féminine. Oui, je veux voir jouer les filles à la télé, mais mon père ne met pas souvent les matchs des filles, dit-elle en le regardant d'un air de défi. Erin, le papa, rassure, on va regarder la Coupe du Monde, et évidemment, sur le terrain voisin, ce sont les plus grandes qui jouent, entraînées par Hilary Hunchal, une Anglaise, qui compare l'engouement des filles pour le soccer ici par rapport au foot dans son pays natal.
Ici, c'est un sport plus jeune. Quand ça a commencé, ça n'était pas forcément un sport de garçons comme en Europe. Et les filles n'ont pas eu à casser autant de barrières pour jouer. Rien ne disait que c'était un sport de garçons.
La preuve, sur ces terrains de Brooklyn, ce vendredi soir, il y a autant d'équipes de garçons que de filles. Et à les regarder jouer, pas de différence. En fait, il y en a une de taille relevée par Nathan Stewart, le directeur du programme féminin de Park Slope United.
Les filles ici sont systématiquement plus compétitives. Elles sont vraiment impliquées dans leur sport. Alors qu'il y a beaucoup de garçons qui font du sport pour faire du sport. Parce que c'est ce que font les garçons. Mais une fille américaine qui joue, vous verrez, elle est toujours physique, à fond et sûre d'elle.
D'ailleurs, ça fait 3 ans de suite que ces équipes de filles gagnent le championnat des quartiers de New York. Elles sont à l'image de l'équipe nationale féminine qui, elle, a gagné 3 Coupes du Monde. Et pourtant, les joueuses professionnelles sont toujours moins bien payées que les hommes, ce qui révolte Emilia, 18 ans, qui sort de l'entraînement.
Évidemment, c'est horrible. Elles devraient être mieux payées avec tout ce qu'elles ont accompli de plus que les hommes. Elles ont déjà gagné la Coupe du Monde et elles peuvent le refaire cette année. Les hommes, eux, ils n'étaient même pas qualifiés l'an dernier. Ça montre que les filles sont bien meilleures.
Avec certaines de ses coéquipières, Emilia s'envolera pour la France dans quelques jours. Son club organise un voyage pour assister aux demi-finales et à la finale de la Coupe du Monde, où Emilia célébrera, elle en est certaine, le 4e sacre des Américaines.
Voilà, retour dans le studio d'Europe 1 où l'on rêve de la vue que vous nous avez décrite, Xavier. Et du coup, on a mis la photo sur la page des carnets sur Europe1.fr. On vient de l'entendre, même au pays où le foot féminin est roi, il y a cette inégalité salariale toujours criante avec les hommes. Hein.
Oui, et d'ailleurs, les joueuses de l'équipe nationale profitent de l'exposition, justement, de la Coupe du Monde pour faire entendre leurs revendications. Avec à leur tête, leur attaquante vedette, Alex Morgan, et ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. La footballeuse au regard bleu acier fait même la une de Time Magazine cette semaine avec ce titre en forme de jeu de mots, The Equalizer, l'égalisatrice. Le 8 mars dernier, donc le jour des femmes, Alex Morgan et ses coéquipières ont porté plainte carrément contre leur fédération, la Fédération américaine de soccer, pour discrimination sexuelle.
Les différences sont tellement importantes avec les hommes ?
Oui, alors il y a d'abord le salaire, même si les comparaisons sont difficiles parce que les systèmes de primes sont différents. Dans le texte de la plainte des joueuses, on a un exemple, 5 000 $ par match amical gagné pour les filles contre 13 000 pour les garçons. En 2015, lors de la dernière Coupe du Monde, les filles ont gagné. Les hommes, eux, la Coupe du Monde masculine, ils ont perdu en 16e de finale. Et pourtant, ils ont touché plus d'argent. Et puis, il y a aussi les conditions de travail, les stades, le transport, le staff médical. Tout est moins bien pour les filles.
Alors que sur le terrain, elles gagnent beaucoup plus souvent que les hommes. 4 titres olympiques, en plus des 3 Coupes du Monde dont on a déjà parlé. Et puis, la première place au classement FIFA. Est-ce qu'au moins l'engouement est plus grand pour elles ?
Alors, c'est difficile à quantifier, mais c'est vrai que j'entends pas mal parler de la Coupe du Monde féminine ici autour de moi, dans la rue, à l'école. Les matchs sont programmés sur la même chaîne que pour la Coupe du Monde masculine l'an dernier ici. On a vu les joueuses pas mal dans les médias, notamment dans la matinale très suivie de ABC. Elles ont joué leur dernier match de préparation dans un stade plein à craquer, c'était à côté d'ici dans le New Jersey. Et puis, il y a un chiffre assez parlant. La dernière finale en 2015 avait été regardée par 25 millions de téléspectateurs. Ouais. C'est le record absolu pour un match de foot aux États-Unis, hein, hommes et femmes confondus. Et il est fort possible que ce record soit battu, évidemment, si les Américaines vont en finale, encore une fois, ce dont tout le monde ici est persuadé.
On l'aura compris. Nous, on mise plutôt pour les bleus, ici. Merci beaucoup, Xavier. À très bientôt. On s'offre un dernier reportage sur la planète du foot féminin. Direction Nairobi, la capitale du Kenya, dans le bidonville de Kibera. C'est le plus grand du pays. Le foot féminin a de plus en plus la cote. Depuis plus de 10 ans, l'équipe de la Kibera Girls Soccer Academy balaye les stéréotypes. Ces joueuses ont gravi les échelons. Elles jouent désormais en Ligue nationale kényane. Et autour de cette équipe, une école a été créée pour offrir une éducation gratuite aux jeunes filles du bidonville. Plus de 300 élèves y ont déjà été formés. Reportage de Charlotte Simonard.
Sur un vaste terrain vague, entre les tas d'ordures fumantes en décomposition et les chèvres venues y trouver un peu de nourriture, une dizaine de filles de 18 à 24 ans s'entraînent. C'est la Kibera Girls Soccer Team. Parmi elles, Zineb, 24 ans.
J'ai grandi ici, j'ai commencé à jouer au foot, j'avais 10 ans avec les garçons du bidonville. Quand ils ont ouvert l'académie, je m'y suis inscrite après l'école primaire.
Zineb fait partie des premières joueuses de cette équipe de Kibera créée en 2002. Au bord du terrain, Mohamed, vêtu d'une longue djellaba blanche, il est leur entraîneur depuis 12 ans.
J'aurais jamais cru pouvoir le faire. Au début, je me disais entraîner des filles. Non. Mais finalement, je suis là et elles sont incroyables. Je suis vraiment fier d'elles. Ce qu'un homme peut faire, elles le font deux fois mieux.
Il y a 15 ans, soutenir une équipe féminine de football était un véritable défi dans cette société conservatrice et patriarcale. Shanissa est une passionnée depuis l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, à 19 ans, le foot lui offre un avenir meilleur.
Dans le bidonville, les femmes sont sous-estimées. Elles sont censées faire le ménage, à manger pour leur mari, avoir des enfants. Quand on a une passion comme le foot, cela vous donne un but dans la vie. Le foot me permet d'avoir confiance en moi, une meilleure estime de moi. Je peux être indépendante. Parce que les valeurs que nous apprenons sur le terrain, nous les appliquons dans notre vie quotidienne.
À moins d'un kilomètre du terrain, une centaine de jeunes filles de 15 à 18 ans suivent leurs leçons quotidiennes sur les bancs de l'école. Géographie, sciences, histoire ou encore théâtre, les bâtiments sont spartiates de briques et de tôles. Si aujourd'hui toutes ne jouent pas au ballon rond, cette école gratuite a d'abord été créée pour les footballeuses du bidonville. Richard Teka est le directeur des programmes.
Au début, on a choisi le football pour notre académie car on s'est rendu compte que beaucoup de filles tombaient enceintes très jeunes. Elles se mariaient, arrêtaient l'école et renonçaient aux études. On voulait sensibiliser les hommes sur les rêves des femmes et leurs capacités. Nous avons donc pensé au football, car c'est un sport que les hommes suivent et c'était une manière d'attirer leur attention.
Une sensibilisation lente et difficile.
Je me souviens quand on a lancé l'équipe féminine de foot, les garçons les chassaient du terrain. Ils leur disaient d'aller faire la vaisselle, qu'elles n'étaient pas censées être ici, mais à la maison. Mais ensuite, les joueuses ont commencé à battre les équipes de garçons. Les hommes ont fini par les considérer et aujourd'hui, ils viennent les encourager.
Depuis sa création, plus de 300 élèves ont été formés ici. La plupart continuent ensuite à l'université grâce à la fondation de l'académie. C'est le cas de Delifa, ancienne élève ici, aujourd'hui revenue en tant que professeure.
Quand j'ai terminé l'école primaire, j'avais 13 ans. J'ai commencé à travailler avec ma mère à son hôtel. C'était mon destin. Je n'avais aucune chance de continuer l'école, c'était terrible. Puis quand je suis venue à Kibera, ma tante m'a inscrite dans cette école et c'est comme ça que j'ai pu accéder aux études supérieures. C'était mon rêve.
Un internat devrait ouvrir prochainement pour aider les jeunes filles au quotidien et les sortir un peu plus de la misère de Kibera. Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.
Voilà, et trois équipes africaines se sont qualifiées et sont présentes à cette Coupe du Monde, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun.
Europe 1.
On reste sur la planète foot. Je suis avec Mélina Boëti, ancienne joueuse et qui a réalisé un très joli documentaire sur les filles qui jouent au foot dans le monde.
Europe 1.
Notes from around the world.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est jusqu'à 14h sur Europe 1. Suite de l'exploration du foot au féminin, Sophie Larmoyer, vous recevez Mélina Boetti, co-réalisatrice d'un film sur le sujet.
Little Miss Soccer, c'est le titre d'un très joli film que vous pouvez voir sur les chaînes Planète et AE, en replay sur MyCanal aussi. Il est signé par deux femmes, Candice Prévost et Mélina Boetti. Mélina Boetti qui est avec nous aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accompagner. Vous avez beaucoup joué au foot,
oui,
Mélina Boetti, à l'AS Saint-Andréenne, au Celtic Marseille, au FC Juvisy, puis vous étiez milieu de terrain. Ensuite, vous avez été instit et aujourd'hui, vous transmettez autrement votre passion comme journaliste sportive à France Télévisions et Eurosport. Et puis donc, vous êtes partie autour du monde avec une autre ancienne joueuse, Candice Prévost, pour aller rencontrer des jeunes filles et des femmes qui pratiquent le foot. On vous suit dans les aéroports, sur les routes, c'est une sorte de road movie extrêmement frais. Elles sont 33 millions de joueuses sur la planète, mais ce qui vous a donné envie de partir à leur rencontre, finalement, ce sont des Péruviennes. Pas n'importe lesquelles, ouais. Hein, les Churubamba.
Les Churubamba, exactement, qui vivent de l'autre côté de la route, après la petite place d'Andahuaylilla, c'est le nom de la ville. Elle est connue pour sa petite chapelle Sixtine. Mm. Et on les avait vues sur un documentaire qui avait été diffusé sur Arte et TV5 Monde à l'époque. Ça a duré 52 minutes, on ne voyait pas le temps passer. On n'avait qu'une envie, c'était de jouer avec elles. Un jour, quand on a l'idée a mûri de Little Miss Soccer, on s'est dit, et les Péruviennes? Quoi, celles qu'on a vues à la télé?
Donc en fait, on avait vu leurs longues nattes, elles ont leur tenue traditionnelle, des grandes jupes,
exactement,
des bas de laine, des sandales.
La pailleras, comme ils appellent ça, les jupes brodées, ultra colorées.
Ils vont vous organiser pour elles un match et avec elles à 3850
mètres d'altitude. À 3850 mètres d'altitude, après une heure de route dans des conditions rudimentaires. Ouais. C'était la magie opérée de suite. Dès qu'on a lancé ce ballon sur ce rectangle vert qui était pas un terrain officiel, vous imaginez, qui était brouté par les lames.
Qui est un peu en pente.
Un peu en pente. Ça a été fou. C'était notre merveille du monde.
Alors le foot, c'est ça. Vous êtes allé aussi dans une dizaine de pays, hein, outre la France, qui est aussi présent dans votre documentaire, auprès de professionnels, auprès d'amateurs aussi. On démarre dans les stades américains, dont on a compris qu'ils étaient pleins. On a entendu le reportage de Xavier Yvon. C'est le pays du soccer professionnel. Et puis, on termine ce voyage en Inde, dans un état rural, un des états les plus pauvres du pays, avec des gamines incroyables, d'une vivacité et d'une énergie folle et dont les vies sont littéralement portées par le foot.
Littéralement, le football, il est rédempteur pour elles, sans paraître démago ou jouer de misérabilisme. Dans ce cas-là, c'est fou ce qui permet à ces jeunes filles d'avoir. Il les sort du déni familial parce que c'est très dur de naître fille en Inde, pour ne pas dire qu'on est condamné à la naissance quasiment, ouais,
pour certaines.
Et ça les amène sur le terrain aussi de l'éducation. Elles sont suivies et ça les amène surtout à s'ouvrir au monde puisqu'elles y apprennent l'anglais. Et avec cet anglais-là, elles voyagent. Elles voyagent partout dans le monde, ces jeunes filles qui ont entre 10 et 18 ans. Elles vont donner des TEDx, des talks devant des ingénieurs chez Microsoft, aux États-Unis. Elles se baladent partout dans le monde depuis qu'elles jouent au foot.
On comprend avec elles que le foot peut être un rempart contre la pauvreté, les préjugés contre les filles et puis l'insécurité aussi qui les guette. Malgré des situations différentes, il y a pas mal d'endroits où vous êtes allées où le foot est un outil d'émancipation pour les filles.
Partout. J'ai envie de dire que à partir du moment où une fille rentre sur un terrain, elle est déjà en lutte, sans forcément militer, j'entends, juste du fait d'être présente, de s'accorder ce droit au but. Donc l'émancipation, elle est de fait déclamée au coup d'envoi, j'ai envie de dire. Et ensuite, à certains niveaux, ça va même plus loin, puisque dans certains pays, on entre dans des actes de militance forts. Le football sert à ça.
Justement, je pense à votre visite en Argentine, hein, le pays de Messi, évidemment, mais je vous propose qu'on écoute un extrait de Little Miss Soccer, votre film. Celle qui vous répond est une journaliste indépendante argentine. On l'écoute.
Pour moi, c'est un vrai sujet sociopolitique et culturel. Se battre contre le patriarcat, contre la décolonisation des corps, déconstruire les mythes existants sur le football et les femmes, et puis sur les corps féminins qu'ils s'imaginent si soumis.
Alors là, c'est le foot comme outil féministe en réaction à une vague de féminicide en Argentine. Hein.
Exactement, en 2015, la population a été sous le choc de voir autant de femmes violées et tuées, et surtout le traitement médiatique qui était accordé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter ça. Ils parlaient en ces termes, donc la population s'est soulevée et avec parmi cette population énormément de footballeuses qui ont occupé les terrains comme elles occupent la rue.
Ouais.
Et en gros taper dans un ballon, ce ballon en fait il est aussi réceptacle de leur coup de gueule et de leur velléité pour la femme dans la société argentine.
Alors beaucoup de joueuses à découvrir dans votre film, mais je voudrais pas qu'on se quitte sans dire un mot de celles qui m'ont le plus enchantée. Ce sont les Vacagula, ce sont des mamies.
Les mamies, on connaît les Banyana
en Afrique
Banyana.
Du Sud.
On connaît les Banyana qui sont en France pour jouer la Coupe du Monde, ça veut dire fille en Tsonga, et les Vacagula ça veut dire mamie, et elles aussi forment une véritable équipe, elles sont une trentaine à l'origine, mais depuis des équipes qui sont nées dans tout le pays. Et elles sont incroyables parce que elles sortent grâce au football d'un isolement. Elles se font du bien au cœur et aux jambes et elles vivent plus longtemps et heureuses.
Elles sont géniales à voir sur le terrain. Elles ont l'air de s'éclater. Elles ont entre 55 et 85 ans et font tourner leur coach en bourrique. Elles sont merveilleuses. Voilà, Little Miss Soccer. C'est donc ce film qui a été diffusé jeudi soir à l'Institut du Monde Arabe et qu'on peut retrouver en replay sur MyCanal. L'Institut du Monde Arabe, où il y a beaucoup d'événements autour du foot féminin dans les deux semaines qui viennent. Allez voir ça sur le site de l'IMA. Merci beaucoup Mélina Boëti de nous avoir rendu visite aujourd'hui sur Europe 1.
Je vous en prie, merci à vous.
Et bonne Coupe du Monde.
Vous aussi. Allez les Bleus.
Europe 1.
À suivre, autre grosse actu de cette semaine, les commémorations du D-Day, 75 ans après le débarquement des forces alliées en Normandie. Nicolas Carreau a dégoté pour nous le livre qu'il nous faut, des petites histoires qui font la grande.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Il est 13h24 et comme chaque semaine, on se plonge dans un livre qui raconte le monde dans les carnets. C'est avec vous Sophie Larmoyer et avec Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
C'est bien un livre dans le monde dont il s'agit. Pourtant exceptionnellement cette semaine, on reste en France, mais avec un écrivain britannique tout de même qui évoque un événement aux répercussions mondiales.
On est dans les carnets du monde quand même. L'écrivain s'appelle Giles Milton, britannique effectivement, il est historien aussi et il publie D-Day, les soldats du débarquement aux éditions Noir sur Blanc.
Alors des livres sur le débarquement, il y en a eu plein, pourquoi avoir choisi celui-là?
Eh bien parce que j'en ai jamais lu un comme ça. Le livre de Milton tranche avec la production éditoriale habituelle. L'introduction, bon, elle est plutôt conventionnelle, il rappelle le contexte, les forces en présence, et après ça démarre. Voilà le prologue. Le vent s'était renforcé depuis midi et devenait de plus en plus violent. Dans les jardins à la française de l'abbaye aux Dames, les arbustes bien taillés étaient tout ébouriffés. Au printemps 1944, l'abbaye accueillait des novices d'un tout autre genre. Eva Eifler était une recrue allemande envoyée en France à son corps défendant qui avait passé cet après-midi venteux en juin à guetter les nuages par une fenêtre du dernier étage. Eva Eifler, donc, elle est télégraphiste pour la Luftwaffe, l'aviation allemande. On commence à suivre ce personnage, on est happé par l'histoire et tout à coup on se réveille, on se demande, je suis dans un roman ou quoi?
Ouais.
Parce qu'on observe ce moment d'histoire par les yeux d'une kidam, mais Eva Eifler n'est pas fictive, elle a laissé son témoignage.
Mais l'auteur, il interprète le témoignage, il en fait un récit?
Et ça dépend, parfois Giles Milton la cite entre guillemets, parfois il raconte simplement, ça donne une incarnation folle à cet événement quand on voit les guillemets. D'un seul coup, ça nous rappelle que c'est un vrai témoignage. Fraulein Eifler, donc, elle se met au travail dans la nuit du 5 au 6 juin. Elle intercepte un message radio ACXL5OW. Ça n'a aucun sens, mais bon, elle transmet. C'est pas son problème de savoir ce que ça veut dire. C'est censé être une soirée, d'ailleurs, parfaitement calme. Mais tout à coup, les messages interceptés s'accélèrent. « Tendue sur ma chaise, écrit-elle, les écouteurs sur les oreilles, j'écrivais comme une démente, j'écrivais en avoir mal au poignet. » En fait, ce sont les premiers rapports sur les mouvements alliés, les parachutistes, et c'est ça la méthode de Milton. Écoutez Florence Hertz, la traductrice du livre.
Comme il est journaliste et aussi historien et aussi romancier, il associe tous ces talents-là pour rendre une histoire très très vivante. Donc il se sert de témoignages, il va beaucoup dans les archives pour rechercher des documents authentiques, des journaux, des lettres, beaucoup de documents qui ne sont pas publiés ou peu publiés. Et il en fait une histoire vraie. Donc on est très très proche des acteurs de l'histoire avec un grand H et on a une histoire qui est très très proche de nous parce que c'est très moderne en fait, c'est très très rapide comme écriture, très vif et basé sur les paroles des vrais gens qui étaient là, qui ont vécu les événements.
tout le livre est comme ça, Nicolas ?
Oui, il raconte le D-Day de la préparation à la fin, ouais, par différents types de regards. Pas seulement l'officier qui note les événements dans son journal, il y a le chauffeur d'un général, la fille du boucher du village, la femme du commandant du Panzer qui était venue justement le rejoindre. Que des personnages, des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément joué un rôle déterminant, ouais, qui n'ont pas forcément été décorés pour leur héroïsme. Simplement, ils étaient là, ils ont vu, ils racontent. Et Giles Milton les met en scène en respectant scrupuleusement les documents. Et ça, c'était intéressant aussi pour la traductrice, puisque beaucoup de témoignages étaient déjà en français.
Et ça se passe beaucoup en France. Donc, il y a le sort de la Normandie, qui est d'ailleurs un élément très, très intéressant du bouquin, parce que on se rend compte qu'il y a énormément de Français, de Normands, qui ont été touchés par ce débarquement, assez tragiquement. Et donc, il a beaucoup, beaucoup de témoignages en français. Or, lui, il a traduit tout en anglais. Et donc, mon travail a été de rendre ça totalement authentique. Donc, soit parce qu'il me fournissait les documents, soit parce que j'ai retrouvé des choses, et aussi de retrouver les façons de parler du temps. Par exemple, pour ce qui est du français, donc j'ai vraiment restitué les vraies paroles des gens, sans les traduire, en retrouvant les vrais documents. Et puis, pour ce qui est des Allemands, par exemple, qui étaient traduits vers l'anglais, donc il a fallu que je restitue leurs paroles en français, du coup. Et j'ai essayé de trouver une langue qui soit à la fois de l'époque et à la fois qui reste très moderne pour qu'elle nous parle directement.
Excellent, c'est un exercice en or pour une traductrice.
Ah ouais, surtout, ouais, pour un bon livre comme ça, l'histoire, la vraie, mais sous forme de récit, qui donne un goût de vérité encore plus prononcé qu'un livre d'histoire classique. Je suis bien content d'avoir découvert ce livre.
Ah bah moi, je suis bien contente que vous nous en ayez parlé. Pour ceux qui veulent tenter l'expérience, c'est donc D-Day, les soldats du débarquement, de Giles Milton, aux éditions Noir sur Blanc. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, Sophie.
Europe 1.
Un carton entier de vêtements pour le bébé qui arrive, des rendez-vous médicaux gratuits, une place en crèche assurée, ça existe, je vous assure, ça se passe en Finlande et la France voudrait s'en inspirer. On vous explique tout ça dans un tout petit instant.
Europe 1, les carnets du monde.
13h31, c'est en Finlande que vous nous emmenez maintenant, Sophie Larmoyer, et comme souvent, c'est pour observer quelque chose que les Finlandais font bien.
Le gouvernement français a l'intention de s'inspirer de la Finlande pour sa politique de la petite enfance. C'est une information qu'Europe 1 vous révélait cette semaine. Et donc bientôt, les parents français devront suivre le parcours des 1000 jours, avec notamment un suivi médical régulier pour tous, avant et après l'accouchement. En Finlande, ça fait bien longtemps que les pouvoirs publics dépensent beaucoup d'argent pour encadrer et aider les parents quand un bébé arrive. Bonjour Rémi Bossaron.
Bonjour Sophie.
Rémi, vous êtes allé à Helsinki cette semaine avec le secrétaire d'État chargé à la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Il allait chercher l'inspiration là-bas. Alors dans les carnets, on va prendre le temps de voir à quoi ressemble ce modèle finlandais. C'est d'abord un état d'esprit. Hein.
Oui, ce qui frappe, c'est que tout est pensé pour aider les parents, avec l'idée que plus on les aide, mieux l'enfant sera traité. Il y a une attention constante prêtée à l'environnement familial de l'enfant, autant qu'à son développement.
Et ça commence très tôt, avant même sa naissance.
Oui, en fait, dès qu'une femme sait qu'elle est enceinte, elle est invitée à se rendre dans un néouvola. Alors, un néouvola, c'est un centre d'accueil dédié aux familles, dans lequel on trouve notamment du personnel médical, des travailleurs sociaux. Ce sont des centres qui sont chargés du suivi de la femme enceinte, puis de l'enfant et de la famille. C'est un suivi très régulier. Il y a plus de 15 rendez-vous entre le 4e mois de grossesse et les 2 ans de l'enfant. Des rendez-vous essentiels pour le bébé et pour les parents, comme l'explique la directrice de l'un de ces centres, Kirsi Rasanen.
Avec ces rendez-vous très réguliers, nous pouvons détecter très rapidement le moindre problème dans le développement du bébé et l'envoyer si besoin vers le service adapté. Mais c'est aussi utile parce que la première année est très sensible pour les parents. Ils s'entraînent et ils ont besoin de soutien et de réponses à leurs questions pour apprendre à se comporter avec un enfant, pour bien s'entendre avec lui, pour que leur bébé se sente en sécurité.
On remarque qu'elle parle bien des parents au pluriel. Hein.
Ah oui, on ne parle pas seulement de la maman, hein, parce que le papa est fortement encouragé à participer et les deux parents doivent aussi répondre à des questions. L'idée, c'est de voir comment ils se préparent à cette parentalité. C'est l'expérience qu'a faite Vincent, un Français qui a eu 2 enfants avec une Finlandaise à Helsinki.
Il pose des questions sur le couple, ce que représente l'arrivée d'un enfant dans le couple. C'est plus des conseils en disant, nous, on a eu des gens qui nous disaient, bah, gardez-vous du temps pour vous, ne vous laissez pas déborder par l'enfant, est-ce que vous avez un réseau qui vous soutient, des choses comme ça. Donc s'assurer de ne pas laisser les gens tout seuls. On avait eu aussi à répondre à un questionnaire sur nos habitudes, est-ce qu'on consomme de l'alcool ou pas, des choses comme ça. Donc ils s'intéressent vraiment à l'environnement dans lequel l'enfant va être élevé. Moi, en tant que Français, oui, c'était troublant.
Et toutes ces questions, ça peut aussi être l'occasion de détecter des problèmes, de tension, voire de violence dans un foyer. Et dans ces cas-là, les travailleurs sociaux peuvent intervenir.
Et tous ces rendez-vous, Rémi, ça coûte cher ?
Eh bien, ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit. C'est un service qui est fourni par les municipalités. Alors, il faut le préciser tout de suite, c'est un système administratif très différent du système français en Finlande. Il n'y a pas de département, pas de région, il y a l'État et les municipalités. Des municipalités qui collectent un impôt très lourd, mais qui se montrent donc très généreuses. Je vous donne une preuve supplémentaire. À la naissance de l'enfant, s'ils ont bien suivi ces rendez-vous avec le néo-voilà, les parents reçoivent un cadeau d'une valeur de plusieurs centaines d'euros. C'est la Baby Box.
La Baby Box, qu'est-ce que c'est ?
Et là, c'est une boîte, hein, comme son nom l'indique, une très grande boîte remplie d'affaires pour le bébé. Alors, ce sont principalement des vêtements pour toutes les saisons. Les températures peuvent beaucoup varier en Finlande. Ouais. Mais il n'y a pas que ça. La Baby Box, c'est tout un état d'esprit, selon Tarja Mullerinen de la municipalité d'Helsinki.
L'idée, c'est de s'assurer que l'enfant dispose de tout ce qui est essentiel pour lui au début de sa vie. Mais la boîte contient aussi des jouets ou des livres pour montrer aux parents le genre de choses dont leur bébé a besoin. Toutes ces affaires, les parents pourraient l'acheter. Mais le fait que tout le monde le reçoive, ça crée une unité entre les parents dans tout le pays. Ça fait tellement longtemps que cette boîte existe. Pour nous, c'est devenu une institution.
Ça fait longtemps comment, Rémi ?
En fait, ça fait plus de 80 ans que les Finlandais reçoivent cette boîte. Wow. Elle a été créée en fait dans les années 30 pour lutter contre la mortalité infantile et c'est devenu un symbole du principe d'égalité entre les citoyens. On peut ajouter qu'elle est tellement grande, cette boîte, qu'elle peut servir de lit de berceau pour le bébé. Il y a un petit matelas prévu pour ça et on dit que la taille est parfaite pour qu'il se sente en sécurité.
Et alors, une fois que le bébé est né, une fois qu'ils ont leur boîte, les Finlandais sont toujours encadrés par ces centres, les néo-voilà.
Oui, les visites se succèdent. Il y en a 10 au cours de la première année de enfants, dont une à domicile, toujours pour avoir un œil sur le foyer, sur l'environnement du bébé. La plupart du temps, c'est une infirmière qui s'en charge et même entre les visites, le contact n'est jamais rompu. Il y a un site internet, un numéro de téléphone que les parents peuvent utiliser à tout moment pour avoir des conseils.
Alors, est-ce que tout le monde fait appel à ces néo-voilà ? Est-ce que c'est obligatoire ou pas d'ailleurs ?
Non, ce n'est pas obligatoire, mais tout le monde le fait. Ouais. Presque tout le monde, en fait. Ouais. La seule petite difficulté rencontrée par le système finlandais, elle concerne des populations d'origine étrangère qui ne connaissent pas le système ou qui ne le comprennent pas et qui ne font pas la démarche. Alors le système s'adapte, mais c'est un nouveau défi pour Tulia Kumpulainen du ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Nous prenons en compte les différences culturelles quand nous nous adressons à eux pour leur dire ce qui peut être fait et ce qui devrait être fait. Mais dans le même temps, il faut que ça reste clairement un système finlandais. Il ne faut pas créer un système à part pour les Syriens ou les Somaliens qui se retrouveraient entre eux. On peut créer, par exemple, des groupes de femmes. C'est important qu'elles côtoient des mères finlandaises.
Et là encore, ce sont les néo-voilà qui hébergent parfois des réunions de femmes avant la naissance. Puis après, ces femmes restent en contact pour éviter l'isolement et toujours être en position de poser des questions ou d'évoquer un problème qu'elles rencontreraient avec leur bébé ou dans leur foyer.
Il y a une autre question pour les parents qui travaillent. J'imagine qu'il faut trouver une place en crèche, comme en France.
Eh oui, mais ça, ce n'est jamais un problème en Finlande. Les places en crèche sont garanties par la loi. La municipalité doit en fournir une à chaque enfant. Les parents payent selon leurs revenus, entre 0 et 290 euros par mois. Et ceux qui ont les horaires les plus contraints peuvent même compter sur des crèches ouvertes 24 heures sur 24. Il y en a 6 à Helsinki, dont celle dirigée par Tina Ivako.
Ce sont surtout des parents célibataires qui travaillent dans le secteur de la santé, de l'hôtellerie ou du transport aérien, par exemple. Certains enfants restent ici plusieurs jours d'affilée. Ils ont besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup d'amour. C'est pourquoi ici, l'encadrement est renforcé. Et nous échangeons avec les parents quand ils reviennent les chercher pour qu'ils maintiennent le contact avec leur enfant, même s'ils sont fatigués.
Plusieurs jours d'affilée, carrément ?
Oui, ça arrive pour des hôtesses de l'air, par exemple. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment que dans la foulée, le ou les parents restent plusieurs jours d'affilée avec leur enfant. Ouais.
Une crèche finlandaise, ça ressemble à une crèche française ?
Alors non, il y a vraiment une atmosphère particulière. C'est pareil partout dans le pays. Il y a beaucoup d'espace, des meubles en bois, des enfants très libres qui sont appelés à développer leur créativité. C'est une partie du modèle finlandais qui intéresse beaucoup à l'étranger. D'ailleurs, il y avait tellement de demandes de visites de délégations étrangères que l'État a fini par demander à des entreprises de créer une sorte de label de la crèche finlandaise. Elles exportent ce modèle de crèche à l'étranger et on en trouve maintenant en Chine, en Australie, en Argentine par exemple et peut-être un jour en France.
En quelques mots justement, puisque le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance était en Finlande, est-ce qu'on peut imaginer transposer le modèle ici en France ? La baby box, les 15 rendez-vous médicaux, sociaux gratuits, la place en crèche ?
Alors la place en crèche assurée, c'est non, c'est sûr pour le moment. La baby box, ce n'est pas sûr du tout, mais il pourrait y avoir des services offerts si les parents acceptent un suivi régulier, c'est ce que veut le gouvernement, c'est que toutes les femmes passent la visite du quatrième mois de grossesse et que toutes reçoivent également une visite à domicile après l'accouchement, avec si possible la présence du père. Ce seraient les PMI qui se chargeraient de cette mission. Et ces visites existent déjà aujourd'hui, mais beaucoup de femmes n'y ont pas recours, d'où l'ambition de les généraliser. Ce serait la base de ce parcours des 1000 jours. L'idée, c'est de retrouver l'esprit finlandais, c'est-à-dire faire attention à la fois au développement de l'enfant et à son environnement familial.
Dossier à suivre donc. Je rappelle qu'en Finlande, ça existe depuis les années 30. Merci Rémi de nous avoir fait découvrir tout ça. À bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Europe 1.
On change radicalement de sujet et de décor pour s'intéresser aux Afghans, aux civils de plus en plus victimes des frappes aériennes et opérations militaires censées viser les insurgés. Ils semblent les éternels oubliés des guerres qui se succèdent dans leur pays.
Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Europe 1, les carnets du monde.
Juste à 14h sur Europe 1. Et nous voilà en Afghanistan, Sophie Larmoyer, un pays en guerre depuis des décennies et qui ne voit pas de répit se profiler.
Le premier trimestre 2019 a marqué un record glaçant. Pour la première fois, les forces afghanes, régulières donc, et américaines, ont tué plus de civils que les insurgés talibans. Et globalement, on estime que l'an dernier, en 2018, plus de 10 000 civils ont été tués ou blessés en Afghanistan. C'est plus qu'à aucun autre moment depuis que l'on compte les victimes civiles il y a 10 ans. Alors il y a les attentats des talibans et de l'État islamique, bien sûr, mais aussi ces bavures des troupes régulières qui, au mieux, donnent lieu à des enquêtes opaques et souvent rien du tout. Margot Ben est allée à la rencontre de victimes de ces bavures au Nangarhar. C'est une région dans l'est de l'Afghanistan. Reportage.
Nous sommes dans un jardin ensoleillé du village de Mimla. Part Bibi, la quarantaine, porte une burqa bleu ciel par-dessus une tunique à fleurs. À petits pas, elle s'avance vers un mur en pierre. C'est là que son mari a été abattu par les membres d'une milice pro-gouvernementale. C'était il y a 9 mois.
Ils lui ont tiré dessus juste là. Il est tombé et ils ont traîné son corps par terre.
Le mur est criblé d'impacts de balles qu'elle effleure d'une main.
Cette nuit-là, on a été réveillés par les avions qui survolaient le village. Puis il y a eu une grosse explosion à la porte et de la fumée noire est entrée dans la chambre. Avec mon mari, on a commencé à courir, mais un homme a crié « Levez les mains et sortez !» Quand nous avons obéi, ils ont mis un sac sur sa tête et l'ont menotté. Moi, ils m'ont entraîné dans la maison et ont fouillé partout. Quand je suis ressortie, j'ai vu le cadavre de mon mari. Il l'avait traîné et jeté devant la porte.
Le mari de Bart Bibi était gardien dans le parc du village. Sur le pas de la porte, personne n'a osé déplacer sa voiture, entièrement calcinée. Ces derniers mois, les États-Unis ont intensifié leurs frappes aériennes. Des frappes qui soutiennent souvent les opérations nocturnes de l'armée afghane contre les talibans ou les combattants de l'État islamique. Mais les victimes civiles sont de plus en plus nombreuses. Baz Mohamed, le beau-père de Bart Bibi, ne contient pas sa colère.
À chaque fois qu'on entend un avion, la nuit, tout le monde a peur. Parfois, ils attaquent n'importe quelle maison et tuent tout le monde à l'intérieur. On a rencontré le gouverneur provincial, mais il nous a dit qu'il n'était au courant de rien. Un représentant du village s'est disputé avec lui. Il lui a dit « Comment est-ce possible que vous ne sachiez rien de ce qui se passe ici, alors que vous êtes gouverneur ? Ils ont détruit nos maisons, brûlé nos magasins. Il y a eu beaucoup de dégâts. »
À quelques kilomètres de là, Wahida, 15 ans, a perdu ses deux parents lors d'une autre opération des forces afghanes et américaines il y a 2 mois. 12 membres de sa famille ont été tués. Parmi eux, 10 enfants. Son père était l'unique médecin du village. Seule Wahida et ses 2 jeunes sœurs, dont une n'a que quelques mois, ont survécu.
Il était 22h quand ils sont entrés. D'abord, ils ont tué mon père. Puis, ils ont largué des bombes sur notre maison. On était tous à l'intérieur, avec les enfants. Je suis restée dans ma chambre, mais j'ai reçu une balle dans le pied. Mes 2 petites sœurs étaient avec moi. Toute la maison s'est effondrée, il ne restait pas un seul mur debout.
Son oncle, qui l'a recueilli, a conservé sur son téléphone des photos prises le matin qui a suivi le drame. On y voit des enfants ensanglantés, couverts de poussière, parmi les éboulis.
Mon frère n'était pas un taliban, c'était un médecin. Les autorités se sont excusées et ont reconnu que des femmes et des enfants avaient été tués. Le gouverneur provincial nous a demandé de lui laisser le temps de constituer l'équipe pour faire une enquête. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait.
Les victimes de raids aériens se disent ignorées par le gouvernement, si bien que des manifestations ont eu lieu à travers le pays. Les autorités, de leur côté, se disent impuissantes et renvoient la balle vers le gouvernement central. En attendant, ni Bart Bibi ni Wahida n'ont reçu la moindre aide de Kaboul. Pas plus des Américains et aucune enquête officielle n'a été ouverte. Dans le Nangarhar, Margot Ben, Europe 1.
Et on retrouve Margot Ben qui est avec nous depuis Kaboul. Bonjour Margot.
Bonjour Sophie et bonjour à tous.
Alors les rapports de terrain montrent que ces frappes aériennes sont plus courantes, qu'elles font plus de victimes civiles, des chiffres records en 2018, à nouveau au cours du premier trimestre 2019. Comment ça s'explique ?
Alors il y a d'abord une question de stratégie des États-Unis. Avant même d'arriver en Afghanistan, le nouveau commandant des forces américaines, le général Miller, a indiqué que sa priorité, c'était de préserver l'intérêt national américain, ce qui veut dire dépenser moins d'argent dans des projets de développement et mettre davantage l'accent sur les frappes contre les talibans et aussi contre les djihadistes de Daesh qui pourraient être une menace pour la sécurité nationale américaine et aussi occidentale. Et pour ce qui est des victimes civiles, il faut savoir que les talibans, ils se cachent souvent dans les villages et même dans les maisons des habitants. Donc, quand les armées américaines ou afghanes reçoivent des informations indiquant par exemple qu'un commandant taliban se cache dans une maison, il est impossible de savoir à 100% s'il y a des civils avec lui dans les parages ou non.
Est-ce que les victimes ont des recours ?
Normalement, elles peuvent aller déposer une plainte au bureau de la Commission des droits de l'homme de leur province, mais ces bureaux sont souvent loin des villages touchés par les frappes. Il faut aussi que les gens puissent se déplacer, qu'ils aient un véhicule, et parfois la route est bien sûr dangereuse. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ont le droit de demander qu'une enquête soit ouverte. Et puis le terrain est très compliqué. La responsable de la commission à Jalalabad, donc la capitale provinciale du Nangarhar, où s'est déroulé le reportage, affirme par exemple qu'il est impossible d'enquêter dans les zones contrôlées par les talibans. Du côté des Américains, le porte-parole de l'armée m'a assuré qu'à chaque allégation de bavure, il y avait une enquête. Il existe même une unité spéciale ici à Kaboul, selon lui, qui effectue des enquêtes internes. Mais celles-ci ne sont pas rendues publiques et ses membres ne se déplacent pas sur le terrain. Donc les Afghans n'ont pas grand-chose à en attendre.
Et donc finalement, les violences se sont intensifiées malgré les pourparlers de paix que les Américains ont entamés il y a plusieurs mois avec les talibans.
Oui, c'est d'ailleurs un paradoxe. On discute et on s'attaque mutuellement. L'idée est d'être offensif pour pousser l'autre partie dans ses retranchements et l'affaiblir par extension à la table des négociations. Et puis il y a aussi d'autres groupes en Afghanistan qui n'ont jamais indiqué vouloir négocier avec les États-Unis ou le gouvernement afghan. C'est le cas de la branche afghane de Daesh, mais aussi d'Al-Qaïda qui opère dans de nombreuses régions d'Afghanistan. En fait, le groupe, même s'il s'est beaucoup affaibli, n'a jamais totalement disparu du pays. Et enfin, il faut savoir qu'il existe en Afghanistan toute une nébuleuse de groupes dont beaucoup sont alliés, notamment avec Al-Qaïda, sans parler des réseaux criminels qui sévissent jusque dans la capitale.
Et au milieu de tout ça, les victimes sont toujours les civils otages dans leur propre pays depuis des décennies. Merci beaucoup Margot pour ce coup de projecteur, on n'en parle pas assez. À très bientôt dans les carnets.
À bientôt.
Europe 1.
Et de l'Afghanistan, on passe à l'Outistan. C'est Joseph Chovanec qui nous y emmène chaque dimanche. Et ça devrait être une petite balade assez poétique aujourd'hui. A tout de suite.
Europe 1, les carnets du monde.
2h10, c'est l'heure de notre petite virée en Outistan, Sophie Larmoyer, avec Joseph Chovanec.
C'est lui qui nous embarque en Outistan avec toutes ses casquettes de philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur infatigable. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Vous nous conviez aujourd'hui à une exploration bien mystérieuse en Belgique.
Oui Sophie, l'autre jour ici même nous avions constaté que pour bien voyager, il valait mieux suivre les conseils des gens bizarres.
Oui.
Et l'autre jour, j'en ai eu une confirmation au-delà de mes espérances les plus folles. J'étais dans un village de la Belgique rurale, Anu. Si ce nom ne vous dit rien, rassurez-vous à personne. Les Belges compris ne connaissent cet endroit à peu près aussi improbable que la légendaire localité de Houtsiplou. Écoute s'il pleut en wallon. Un peu naïvement, je demandais à mes hôtes ce qu'il y avait à faire là-bas pendant mes 2 ou 3 heures de libre. S'il y avait un musée, par exemple. Et mon interlocutrice de me répondre, ici, il n'y a même pas d'hôtel. Donc, grosse déception. réception. Mais la personne en face de moi soudain marque une pause, puis dit d'un ton gêné « Il y a par ici une dame qui collectionne des boîtes. »
Une dame qui collectionne des boîtes ?
Mais oui Sophie, moi aussi ça m'a fait tout drôle d'entendre ça, cette phrase mystérieuse. Mais j'ai tout de suite compris que ça devenait intéressant. J'ai donc demandé à la voir, cette dame bizarre, dès que possible. Peu de temps après, me voilà en voiture, roulant sur des petits chemins de terre perdus dans la verdure. On s'arrête devant une ferme que rien en apparence ne distingue des autres. Pourtant, j'ai le cœur qui bat la chamade. Je sens que mon moment Harry Potter est arrivé. Le moment de basculer dans un monde parallèle. On sonne à la porte. Une dame d'un certain âge finit par ouvrir. Timide, les gestes lents, la voix à peine audible, le regard, si j'ose dire, bien de chez nous, hein, binational Belgique-Autistan. C'est Yvette Dardenne, une adorable mamie assurément, mais elle a un secret, un énorme secret même. Elle a durant des décennies réuni la plus grande collection au monde de boîtes en métal imprimées ou peintes. C'est constitué un univers parallèle de dizaines et de dizaines de milliers de boîtes en métal.
Des dizaines et des dizaines de milliers, mais elle les met où ?
Même partout dans sa ferme. On comprend vite qu'il ne s'agit pas d'une histoire belge. Dès le couloir d'entrée, elles sont sur les murs, sur, dans, devant les meubles. Chacune a une histoire que Madame Dardenne sait faire revivre. Elle les connaît toutes, hein, leurs fonctions, leur origine, leur dimension millimètre et surtout leur numéro dans la collection. Madame Dardenne se repère dans le temps par le numéro des boîtes. Tel jour de sa vie, par exemple, je ne sais pas, le décès de son mari, correspondait à tel numéro de boîte.
Mais elle les a répertoriés ?
Non, Sophie, pas de catalogue écrit. Hein. Le seul catalogue complet est celui de sa mémoire.
Wow.
Et quand on chemine de chambre en chambre, j'avais fini par croire avoir tout vu. Mais soudain, voici que Madame Dardenne m'emmène au moulin situé au milieu du terrain. Elle me met en garde en tenant la porte fermée devant moi. Un choc m'attend. Hein. Il est interdit d'y aller seul, car le spectacle est tel que des gens se sont déjà évanouis à l'entrée. Alors je serre les dents. La porte grasse est là, comme on dirait en wallon, oufti. Hein, c'est mieux que Harry Potter. C'est Ali Baba, un monde irréel soudain face à vous. Je n'ai jamais vu d'endroit pareil.
Voilà, racontez-nous quand même.
Mais devant vous, l'immense espace d'un hangar, hein, sur des centaines et des centaines d'étagères intégralement remplies de dizaines et de dizaines de milliers de boîtes harmonieusement disposées qui scintillent sous les quelques lampes électriques. C'est le moment où on reste muet de stupeur durant un temps indéfini. Madame Dardenne, pudique et humble, insiste alors pour m'offrir du café et des gâteaux. Murmure qu'elle a aussi une collection de paniers aux nosiers. 15 000, hein, ce sera pour une autre fois. J'ai eu ma dose de magie pour la journée, sinon plus. Elle ajoute avoir été expertisée par des psychanalystes, sans résultat. D'ailleurs, le résultat n'aurait aucun intérêt par rapport à son œuvre. Et en sortant, après avoir salué cette grande dame pour une dernière fois, une pensée terrible m'a envahie. Que deviendra ce monde enchanté au départ de sa créatrice ? Et quand on y songe, notre monde serait bien terne sans ces magiciens secrets qui vivent quelque part dans la verdure, hein, qui agissent non point dans une publicité agressive de soi, mais dans le silence et l'humilité. Donc merci à vous, Madame Dardenne.
Et merci à vous, Joseph, pour ce moment poétique et pour nous avoir permis de rencontrer Yvette Dardenne. Vous n'avez pas osé prendre de photos, j'imagine.
Si elles sont ratées, comme toujours.
Merci, à dimanche prochain,
à très
Joseph.
Bientôt.
Europe 1.
Merci de nous avoir accompagnés. Il est temps de refermer les carnets du monde. Vous pouvez les rouvrir quand bon vous semble grâce au podcast disponible sur europe1.fr. Dans la team carnet, sans ballon rond, mais avec des bonnettes de micro, je remercie Sophie Mallier à la réalisation et Florence Gimalac qui m'aide à préparer l'émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain, 13h, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, portez-vous bien.
À dimanche prochain, Sophie Larmoyer. À suivre les infos et à 14h précise, Christophe Ondelat nous raconte l'affaire Alexandre Pitchouchkine, un tueur en série dont l'ego gonfle proportionnellement au nombre de ses victimes au point de guider la police jusqu'à lui. Passionné d'échecs, il est surnommé le tueur à l'échiquier. Son ambition étant de supprimer autant de personnes qu'il existe de cases sur un échiquier, à savoir 64. Ondelat raconte, c'est dans un instant sur Europe 1. Et puis à 15h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet reçoit l'artiste pluridisciplinaire Julie Ferrier pour son spectacle cabaret. À ma place, vous feriez quoi ? Un tête-à-tête qui nous emmènera donc jusqu'à 16h.